Voilà, donc j'ai prévu de vous partager ce matin le chapitre 24 de l'évangile de Luc, que nous avons lu récemment là en cellule de maison chez moi, et qui est tellement beau que j'ai eu envie de vous le partager. Et j'ai intitulé le message, selon une traduction qui n'est pas celle de ma Bible, mais c'est pareil, « Aux gens sans intelligence et lents de cœur à croire ». C'est Jésus qui dit ça, vous allez voir. Donc, on va lire juste quelques versets à la fin du chapitre 23. Ah, c'est celui-là ? Ah, d'accord. Donc, à la fin du chapitre 23, les versets 55 et 56. Donc, Luc, fin du chapitre 23, versets 55 et 56. Les femmes, celles-là même qui étaient venues de Galilée avec lui, donc avec Jésus, suivirent, elles virent le tombeau et la manière dont son corps y fut mis. Et elles s'en retournèrent pour préparer des aromates et des parfums. Puis, pendant le sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement. Et donc la suite dans le chapitre 24, on va lire les 8 premiers versets. Le premier jour de la semaine, donc le dimanche, comme aujourd'hui, elles vinrent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, deux hommes survinrent devant elles en habits éclatants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il s'est réveillé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il se relève le troisième jour. » Et elles se souvinrent de ces paroles. Jésus a été crucifié donc la veille du sabbat. Les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et le servaient, lui et ses disciples, de leur bien, avaient assisté à la mise au tombeau du corps du Seigneur. Elles avaient préparé des aromates pour embaumer son corps, mais elles devaient attendre que le sabbat soit fini pour rendre ce dernier hommage à celui qu'elles aimaient. Et voilà qu'elles trouvent le tombeau vide. Et deux hommes se présentent en habits éclatants. Le mot veut dire brillant, étincelant comme l'éclair. Elles n'osent même pas regarder. On peut imaginer leur frayeur. Elles sont venues de grand matin, nous dit le texte. Il faisait encore sombre, nous précise l'évangile de Jean. Et elles ont devant elles ces deux hommes qui brillent comme l'éclair. Et ces deux hommes sont porteurs d'un message merveilleux, mais assorti d'une question en forme de reproche tout de même. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Cette expression « le vivant » a probablement dû faire mouche dans leur esprit, car c'est le terme dont on désigne souvent Dieu lui-même dans l'Ancien Testament, le Dieu vivant. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé ? Et alors, elles se souvinrent, effectivement. Ces paroles, jusque-là, n'avaient pas eu d'écho dans leur cœur, ou tout au moins, elles n'imaginaient pas que ce soit une réalité. Jésus avait à plusieurs reprises enseigné ses disciples sur cet aspect du plan de Dieu. Le salut de l'humanité ne pouvait pas devenir une réalité tant que la justice de Dieu n'était pas satisfaite. On trouve par exemple dans l'évangile de Marc, si vous voulez regarder avec moi, au chapitre 8, Marc chapitre 8 au verset 31, il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il se relève trois jours après. Il disait cela ouvertement, Donc, pas en parabole, hein, ouvertement. Et ceci, juste après la belle confession que Pierre venait de faire, qui avait reconnu que Jésus de Nazareth était bien le Christ, c'est-à-dire le Messie. Et il avait d'ailleurs ajouté « le Fils du Dieu vivant ». Également dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9, Luc chapitre 9, au verset 44, il dit à ses disciples, « Quant à vous, prêtez bien l'oreille à ces paroles. Le Fils de l'homme va être livré aux humains. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. « Quant à vous, prêtez bien l'oreille à ces paroles. » Mais donc les disciples ne comprenaient pas cette parole et précise Luc, elle était voilée, ils n'en saisissaient pas le sens et ils avaient même peur de l'interroger à ce sujet. Non seulement ils ne comprenaient pas ce que voulait dire Jésus, mais même ils craignaient de demander des explications. Cela prouve bien que cet enseignement les choquait quelque part. Dans le chapitre 18 de Luc, verset 31, il prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Nous montons à Jérusalem. Tout ce qui a été écrit par l'entremise des prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux non-juifs, on se moquera de lui, on le maltraitera, on lui crachera dessus, on le fouettera, puis on le tuera. Et le troisième jour, il se relèvera. Mais ils n'y comprirent rien, le sens de cette parole leur restait caché, ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. » Et on pourrait encore citer les paroles de Jésus lors de l'institution de la Sainte Cène, en Luc 22 par exemple. « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'est mon corps qui est donné pour vous. » Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue pour vous. On peut dire que Jésus avait été clair sur ce qui allait arriver et qui devait nécessairement arriver. Et pourtant, ses disciples eux-mêmes n'ont pas pu comprendre cette notion. Alors on va continuer notre lecture dans Luc 24, à partir du verset 9. Elles s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques et les autres avec elles. Elles le dirent aux apôtres, mais ces paroles leur parurent une niaiserie et ils ne crurent pas les femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Donc, elle s'empresse de porter ce message aux apôtres. Mais ces paroles leur parurent une niaiserie, dit la traduction que j'ai, là, qui est la Nouvelle Bible Seconde. On peut traduire aussi par le mot par baliverne ou sornette. Notez que le mot grec que Luc utilise pour dire ces paroles, c'est le mot rhéma ou rhémata, en pluriel, hein, mot qui signifie souvent dans l'Écriture une parole spéciale, adressé par Dieu aux hommes dans un but spécifique, précis. Ce message spécifique donné de Dieu pour les disciples de Jésus, par deux de ses anges, sonne à leurs oreilles comme des sornettes. Peut-être aussi, et j'ai un peu honte de le dire, que ce sont des femmes, parce que ce sont des femmes qui leur rapportent ces paroles. C'est rhémata, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils n'ont pas cru. Pierre va tout de même voir ce qui se passe au tombeau. On sait par l'évangile de Jean que Jean, justement, y est allé aussi avec lui et qu'ils ont couru tous les deux. Et même que Jean est arrivé le premier. Ils trouvent le tombeau vide. Donc sur ce point, les femmes n'avaient pas déliré. Mais les anges ne sont plus là. Et donc, ils ne peuvent se fier, ou plutôt se défier, qu'au message des femmes. Le récit de Luc nous dit que Pierre, s'étonnant de ce qui était arrivé, retourna chez lui. Jean, dans son propre évangile, dit qu'il vit et il crut. Mais Jean précise, car il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Alors on va lire la suite de notre récit et voir comment le Seigneur s'occupe, parce qu'il faut bien, de l'incrédulité de ses disciples. À partir du verset 13, donc Luc 24, à partir du verset 13. Or ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ?»« Et quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus, le Nazaréen, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu des visions d'ange, une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, « Que vous êtes stupides. Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem, et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent « Le Seigneur s'est réellement réveillé, et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils s'étaient fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Un récit merveilleux, n'est-ce pas? Voilà ces deux disciples qui se rendent de Jérusalem à Emmaüs, environ 11 kilomètres de Jérusalem, et tout en marchant, ils ont une conversation, semble-t-il, très animée. Le texte dit qu'ils s'entretenaient et débattaient ensemble. Jésus s'approche, se joint à eux et leur demande gentiment quel est le sujet de cette conversation animée. Ils ne le reconnaissent pas, car leurs yeux étaient littéralement empêchés, retenus. Le verbe est au passif, ce qui sous-entend un obstacle surnaturel, donc un obstacle mis par Dieu lui-même. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 16, Paul écrit « Ainsi, nous aussi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Et Paul précise « Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. » Le Christ ressuscité avait un corps réel, fait de chair et d'os, comme il le montrera d'ailleurs à ses disciples pour les convaincre de la réalité de sa résurrection, mais un corps nouveau avec des propriétés nouvelles. D'abord, il est éternel. Et puis, on voit qu'il apparaît comme il veut et où il veut, même si les portes des maisons sont barricadées, ce qui était le cas de la maison où se réunissaient les disciples par crainte des Juifs. Donc, ces deux disciples ne reconnaissent pas Jésus, qu'ils ont pourtant sûrement fréquenté auparavant. Et Jésus se joint à leur conversation. Nous, on n'oserait peut-être jamais faire ça. En tout cas, moi, j'oserais pas. Peur de paraître importun. L'amour de Jésus pour les siens dépasse les convenances humaines. Comme il serait bien que cet amour soit aussi versé dans nos cœurs, pour que nous osions parler à nos semblables de ce trésor merveilleux dont nous sommes dépositaires. Le Sauveur du monde est vivant. Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. Ils sont vraiment tristes. Mais le Seigneur ne veut pas les laisser dans leur tristesse. La conversation débute de façon surréaliste. « Es-tu le seul, alors que toi, tu viens toi aussi de Jérusalem, à ne pas savoir ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth ?» Et Jésus de répondre « Quoi ?» Je pense que dans ce « quoi » il y avait à la fois l'humour du Sauveur et son désir de leur faire verbaliser ce qui leur pesait sur le cœur. Et alors ils expliquent, mais ce qui concerne Jésus, le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, ils confessent la puissance de son enseignement et de ses miracles. Mais ils n'ont discerné en lui qu'un grand prophète, comme Dieu en avait envoyé autrefois à son peuple Israël. Et ils avouent quel espoir ils avaient mis en lui. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Littéralement, celui qui était sur le point de racheter Israël. Racheter dans le sens de payer la rançon, le prix du rachat. Étonnant tout de même qu'ils aient utilisé ce mot. Ils avaient compris que le Messie devait racheter son peuple, mais ils n'avaient probablement pas vraiment compris de quoi. Et c'est le grand problème de tous les hommes lorsqu'ils ne sont pas éclairés par le Saint-Esprit. Vous dites que j'ai besoin d'être racheté, mais racheté de quoi ? Suis-je à ce point insolvable ? Et la justice de Dieu à ce point exigeante ? Oui, chers amis, nous sommes totalement insolvables, incapables de payer la dette de notre péché que la justice parfaite de Dieu réclame. Peut-être y a-t-il parmi nous ce matin quelqu'un qui n'a pas réalisé qu'il est totalement insolvable devant la justice de Dieu. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Nous sommes contraints de perdre toutes nos illusions. Nous n'y arriverons jamais, malgré tous les efforts d'amélioration morale que nous pourrions nous imposer. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Fils de Dieu lui-même a payé l'intégralité de notre dette et que nous n'avons rien à faire pour satisfaire la justice de notre Créateur, sinon reconnaître que nous sommes des pécheurs, totalement insolvables, mais libérés de notre dette par la mort sur la croix de Jésus-Christ. Notre dette, il l'a entièrement payée. Il n'y a rien à rajouter. Surtout pas nos malheureux efforts charnels pour nous améliorer. Dieu n'a aucun plan d'amélioration pour la chair. Il veut simplement que nous la tenions pour crucifier à la croix de Jésus. Et on a lu donc ces versets 22 à 25. Il est vrai que quelques femmes nous ont stupéfiés. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. C'est bien là le problème. Lui, ils ne l'ont pas vu. Tout comme ces deux hommes dont les yeux étaient empêchés. Et là, Jésus va déverser toute sa grâce, tout son amour sur ces deux hommes. Il a fait spécialement le chemin avec eux pour ça. Il commence par leur reprocher leur stupidité et la lenteur de leur cœur. Ils sont intellectuellement stupides, puisque Jésus avait clairement dit ce qui allait arriver. Mais le problème, c'est aussi la lenteur du cœur à croire. Croire n'est pas intellectuel. C'est le fruit de la foi, qui surpasse tout raisonnement et s'empare de la vérité à laquelle l'intelligence non renouvelée ne peut accéder. Alors là, c'est la leçon magistrale d'Ancien Testament donnée par le Fils de Dieu lui-même à ces deux hommes, assombris de tristesse et de points d'interrogation. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. J'aurais vraiment aimé être à leur place, pas vous ? Un cours de théologie messianique donné par le Fils de Dieu lui-même. Ce qui me console, c'est que ce cours a été largement repris par le Saint-Esprit, inspirant les paroles des apôtres dans le livre des Actes, puis leurs écrits dans toutes les épîtres, et je pense que nous apprendrons encore des choses merveilleuses du Seigneur lui-même quand nous serons avec lui dans son royaume. La suite du récit est tout aussi merveilleuse. Ils sont arrivés à destination, Jésus fait mine d'aller plus loin, notre cher Sauveur ne s'impose pas, mais bon, si vous insistez, et il va partager un repas avec eux. Et là, il se fait connaître, vous avez remarqué, dans la fraction du pain. Comme ils en témoigneront plus loin au verset 35, quand ils sont allés trouver les disciples qui étaient à Jérusalem, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils s'étaient fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Ce geste tellement touchant qu'il nous a demandé de perpétrer et qui dit à chacun de nous, « C'est moi, votre Sauveur, celui qui vous aime, celui qui a payé votre dette pour vous et qui a fait de vous ses frères. Certes, vous êtes un peu bête, vraiment long à comprendre ce que je vous dis, mais ça ne fait rien. C'est moi, je vous aime et je m'occupe de vous. Vous m'êtes tellement précieux que j'ai donné ma vie pour vous. » La réaction des deux hommes est bouleversante. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ? Est-ce que notre cœur à nous brûle aussi lorsque le Saint-Esprit nous ouvre le sens des Écritures ? Puisse-t-elle ne jamais nous laisser froid ? Et malgré l'heure tardive, ils refont le chemin en sens inverse. Ils retournent sur le champ à Jérusalem, ne pouvant pas garder pour eux-mêmes plus longtemps cette extraordinaire nouvelle, le Seigneur est vivant. Ils trouvent les onze, qui sont en fait déjà au courant parce que Jésus était apparu à Pierre et Jésus se présente au milieu d'eux, on va lire la suite, verset 36. Comme il disait cela, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi des doutes vous viennent-ils ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'étonnaient, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour, et que le changement radical, ou la repentance, pour le pardon des péchés, serait proclamée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Moi, j'envoie sur vous ce que mon Père a promis. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Là encore, Jésus rencontre leur effroi et leur incrédulité. Il croit voir un esprit. Et il les invite à le toucher, à constater qu'il est bien là en chair et en os, et pour les convaincre tout à fait, il mange devant eux. Croyez-vous que Jésus avait faim ? Notre Bible ne le dit pas, mais vu les propriétés surnaturelles du corps glorieux de Jésus, on peut douter qu'il soit astreint aux nécessités alimentaires. Je crois plutôt qu'il a mangé devant eux pour les persuader de la réalité de sa résurrection corporelle. Et sachez, chers amis, qu'il en sera de même pour tous ceux qui auront mis leur confiance en Jésus. Ils seront ressuscités corporellement avec un corps nouveau, mais un corps. Nous ne serons jamais des esprits comme les anges le sont, par exemple. Et donc, on a lu au verset 45 qu'il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et le résultat a été fabuleux. Ces hommes, sans instruction, vont prêcher la merveilleuse nouvelle du salut par la mort expiatoire de Jésus et écrire une bonne partie du Nouveau Testament, et cela par la puissance de ce que Jésus promet au verset 48. Hein ? Moi, j'envoie sur vous ce que mon Père a promis, donc le Saint-Esprit. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc cette puissance n'est rien moins que la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. D'autres, instruits par ce même Saint-Esprit, se joindront à eux pour compléter merveilleusement les Écritures, comme les écrits de l'apôtre Paul, par exemple, mais aussi de Jacques et de Jude, les frères du Seigneur, et aussi l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et on termine au verset 50. Il les emmena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après s'être prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple et bénissaient Dieu. Voilà, le Seigneur Jésus les quitte pour remonter au ciel. Et le résultat de tout cela, c'est l'adoration et une grande joie. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient sombres et tristes, terriblement déçus. Mais maintenant tout est changé. Ce sont maintenant des cœurs qui se prosternent dans l'adoration et qui sont remplis d'une grande joie.